Bienvenue à Micro-Sillon,
des interviews fantastiques.
L'ambiance est bonne et le café est bon.
Ah ça c'est vrai, on est très bien reçu.
Bienvenue nouveaux compagnons,
de la musique, du documentaire, etc.
20 minutes écoute notre émission.
Hommage spécial dédicace.
Micro-Sillon. Bienvenue au sommaire de l'émission d'avril 2020.
Ah, ok. Est-ce que... Ok, on peut se tenter aussi un sommaire par Skype. Salut Anthony, qu'est-ce qui est important de dire dans le sommaire ?
D'abord, nous avons... Oh, un mot d'Anthony.
Bonjour à toutes et à tous. Voici l'émission du mois d'avril 2020. En cette période de confinement, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute sur notre site internet microsillon.free.fr.
Ok, ok. Et donc ensuite, nous avons l'épisode 10 de
Jean-Pierre le bébé singe de Rodolphe Orville.
Suivi de l'épisode 1 de
Politiquesque,
ma nouvelle série chez Alban. Et ensuite, nous allons écouter un
morceau de piano de 2 minutes 30 de Olivier.
Electro Live.
Oh, oui.
Et puis ensuite...
Donc là, il y a l'hommage de Alban sur, pour Roger Javel.
Il faut qu'il y ait une phrase quand même qui explique pourquoi on fait un hommage.
Hommage à Roger Javel qui nous a quittés en mars.
Halte ou mal-être, l'épisode 6 bis que j'ai fait moi-même.
Et après, ben, dans cette chronique, on comprendra, enfin, on comprend, il expliquait qu'on comprend bien que c'était lui qui faisait l'émission Popcorn, Alto Mal-être, etc. Voilà.
Ensuite, l'épisode 3 de l'émission de Philippe Shark, de l'individuel au collectif.
Pourquoi pas, ouais, mettre Philippe Shark. La courte interview de André au Pôle Errance.
Une interview par Vince et ensuite un intermède musical de JP Milleman et de Christophe Capello. Zergel and the Obscure Waves. Modulate. Et puis nous avons ensuite une interview d'un cuisinier de chien d'aveugle.
L'interview de Vincent.
Qui, je crois, s'appelle Andro. Et puis un mix.
Nico. Avec son mixdown, et puis...
L'épisode 37 de Néophilomoué. Bonne écoute.
Bon, qu'est-ce qu'on va raconter sur le mois d'avril ? On va dire que c'est un moment particulier, et que l'association tient à diffuser ses programmes. Comment ?
On est content et on est fiers de proposer de l'émission. Finalement, on n'aura pas l'émission, quoi.
On peut proposer aux auditeurs d'écouter en direct sur MixLR de 14h à 16h, quoi.
Oui.
Je me disais que ça serait pas mal de souligner aussi, dans cette émission, il y a 10 auteurs différents qui proposent des chroniques. C'est quand même exceptionnel.
Ah ouais.
Et donc, il va y avoir 13 chroniques.
Aussi, continuons de sillonner malgré le confinement.
Effectivement, le groupe d'entraide mutuelle Micro-Sillon continue en effet de fonctionner grâce aux efforts renouvelés des adhérents désormais actifs à distance. Nous avons par exemple mis en place un groupe WhatsApp malgré la présence d'un groupe Discord existant et nous appelons régulièrement les membres. Une chose inédite et que nous avons mise en place sont des ateliers à distance d'écoute collective de nos émissions que vous pouvez tous rejoindre. Ces ateliers appelés les échos déconfinés ont lieu tous les jours de la semaine de 14h à 16h, du lundi au vendredi. Pour nous rejoindre librement dans ces écoutes collectives, rendez-vous sur mixlr.com/microsillon. MICROSILLONS. mixlr.com/microsillon. MICROSILLONS.
Chers amis, bienvenue dans l'histoire de Jean-Pi et le bébé singe, une histoire racontée en 25 épisodes par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand, paru en 1963 aux éditions Hachette. Cette histoire, entièrement enregistrée sur bande magnétique, a été réalisée avec une musique sur pick-up stéréo tourne-disque. Petit détail, à l'écoute, si vous entendez un récurrent, c'est qu'il s'agit bien d'une fabrication artisanale. C'est le raccord de bande cassette. Réalisé en 1985 et remasterisé en 2018, de 63 à 2019, 56 ans plus tard, l'histoire est toujours là. Résumé général. Comment Jean-Pi, ayant récupéré par hasard un petit chimpanzé, est appelé à le faire adopter, non sans mal, par les habitants du pays des enfants. Aujourd'hui, épisode numéro 10, à la recherche de Babylas. Résumé de l'épisode précédent, grâce à un livre, Babylas avait comprendre à Jean-Pi qu'il voudrait bien manger des bananes. Jean-Pi se met en devoir de lui en trouver.
Il se retourne et pose un doigt sur ses lèvres. Chut. Silence, n'est-ce pas, demande. Oh oui, bien sûr. Silence, répond-elle en souriant. La journée paraît interminable à Jean-Pi, car il se tourmente. En effet, l'affaire du monstre noir n'est pas encore oubliée et l'enquête se poursuit. Combien de temps devra-t-il encore cacher Babylas? Évidemment, il s'est mis dans un mauvais cas, mais pouvait-il faire autrement? Quand il a terminé son travail, il passe chez Lisette pour faire quelques achats. Ton chien a l'air d'aller mieux, lui annonce-t-elle. Aujourd'hui, tout a été calme. Pas de vitres cassées. Ouf ! Soupire Jean-Pi, qui croyait justement que Babylas eût encore fait quelques bêtises. Il se dirige vers sa maison et ouvre la porte. Capucine vient à sa rencontre et l'accueille en bondissant autour de lui. Mais ce soir, elle reste immobile dans un coin, gémissant faiblement. Que se passe-t-il? Lui demande Jean-Pi. Serait-il malade pour de bon? S'approche lentement. Elle lève vers son maître un regard implorant, comme si elle voulait se faire pardonner. Et tout à coup, Jean-Pi saisit une crainte. Babylas. L'escalier et grimpe en hâte dans sa chambre. Elle est vite. Capucine, qui l'a suivi, continue à gémir faiblement. Pourtant, il est fermé, s'exclame Jean-Pi. Où s'est-il donc caché, ce petit démon? Babylas est introuvable. Soudain, Jean-Pierre remarque la chaise au milieu de la pièce, juste au-dessous de la trappe. Celle-ci est encore à demi soulevée. Il s'est caché au grenier suite. En montant dans la chaise et en s'aidant du fil de la lampe, Bagoulas, excellent acrobate, a réussi à soulever la trappe. Jean-Pi suit donc le même chemin. Sa tête émerge dans le grenier. Babila, s'appelle-t-il. Viens vite.
C'était Jean-Pi et le bébé singe, raconté par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand. Chers auditeurs, pour la suite, rendez-vous le mois prochain, même heure, même fréquence. En attendant, gardez votre âme juvénile. À bientôt!
microsillon.free.fr
Attention, attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Microsillon.
Mais qu'est-ce que c'est que la politique ?
C'est vrai ça, qu'est-ce que c'est que la politique ?
Qu'est-ce que
Épisode B, où sont les politiques ?
Bonjour, bonjour. Je prendrai un sirop de grenadine.
Oh, mais c'est Nicolas.
Tiens, Frida. Oh, tout beau, tout.
Toujours aussi affectueux, ça.
Tu as l'air tracassé, Frida.
Oh, tu sais, je travaille pas aujourd'hui car le service est fermé. Ils sont en grève. Ils sont tous en grève.
Cool.
Je suis pas payée. Et il me faut des sous pour nourrir mon enfant.
Pas cool. Tu devrais faire grève pour réclamer un salaire.
Purée de gilets jaunes, je ne les comprends pas.
Oh. Enfin, c'est pas ton genre. Mais c'est vrai que les temps sont durs et la lutte s'éternise méchamment.
Mais pourquoi est-ce que les politiques ne nous laissent pas tranquilles ? Qu'est-ce qu'ils nous veulent ?
Le système est en train de s'écrouler, ils veulent nous emporter avec.
Purée de droite. Et Macron, là, n'est pas censé être à gauche ? Pourquoi est-ce que la droite est encore au pouvoir, s'il est au pouvoir ? Gauche comme droite, tous pareils. C'est pour ça que je vote pas, d'ailleurs.
Tu votes pas ?
Pourquoi faire ? Je sais même pas ce que c'est, la droite ou la gauche.
Je sais pas.
Ben non.
Comment le dire ?
Au départ, à droite, mon grand-père m'a dit c'était les gens qui étaient du côté du roi, car ils étaient à droite et se sont assiégés avant les autres. Et à gauche, il y a eu ceux qui opposaient le roi. Mais ceux qui opposaient le roi étaient aussi pour le libéralisme. Donc, quand les royalistes ont disparu, alors la gauche d'hier est devenue la droite d'aujourd'hui, avec les libéraux à droite et les socialistes à gauche.
Ah, donc ceux qui étaient pour le système en place ont toujours été à droite. Le rapport au libéralisme, qui est un détail par rapport au droit civique, est devenu le plus important.
Et donc, on est arrivé à un point où les socialistes sont à droite et il n'y a plus rien à gauche.
C'est un peu plus compliqué que ça. Disons que les capitalistes ont, entre guillemets, conquis l'univers des points de vue des gens. Plus personne ne croit au socialisme vu qu'à l'extrême, il y a le communisme et l'horreur que l'on a eu en Russie et en Chine.
La gauche a toujours été à la gauche, vers le socialisme. Et la gauche a aussi vieilli. Macron est sorti de la gauche, mais personne ne savait que son parti n'était pas de gauche. Il a juste symbolisé le changement que tout le monde voulait.
On pourrait dire ça si tout le monde était un peu comme toi. Bon.
Ouais, mais je votais pas. Je déteste la politique. Un point, c'est tout.
Mais attends, il faut que tu votes pour écarter les extrêmes.
Ah ouais? Et qu'est-ce qu'ils amèneraient, eux ?
La catastrophe. Ils vont rendre la vie encore plus invivable que maintenant.
Est-ce encore possible ?
Débat, atelier, rencontre, ne rien faire. Micro-sion.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Electro Live. J'ai composé un morceau de piano il y a à peu près 2 ans. C'est une improvisation et qui dure à peu près 2 minutes. Et vous pouvez écouter aussi mes compositions sur SoundCloud Electro Live. Micro-sillonné, micro-sillonnaise, bonne écoute.
J'entendis la voix réconfortante de Micro-Sillon.
Bonjour, vous auriez écouté Popcorn. Je ne suis pas Roger, je ne suis pas le président de l'association Alto Mal-être pour la prévention des gestes suicidaires. C'est juste Alban, et je vous porte la mauvaise nouvelle que Roger a fini ses jours juste après l'assemblée générale de notre association. Il était un adhérent très prometteur et son message et ses efforts ont sauvé des vies partout dans le monde. Mais les circonstances de quarantaine nous empêchent de retrouver les prochains épisodes de la rubrique Alto Mal-être. Cependant, il nous a dit à l'épisode précédent qu'il allait nous parler des facteurs de risque de suicide liés à autrui. Alors j'en parlerai. J'ai écrit pas mal de choses là-dessus, même si je n'en retrouve rien. Comme un proverbe le dit, l'enfer, c'est les autres. Même si autrui est la seule source d'affection, autrui est aussi la seule source de désaffection. Et de nos jours, une large majorité des relations importantes pour sa propre vie s'avère abusive, entre les tourments et la déformation causés par la monoamorie, le harcèlement et l'irrespect professionnel, et d'autres facteurs sociaux issus d'amitiés douteuses. Nous vivons dans une ère de prise de conscience du harcèlement et des cultures abusives, mais l'abus a existé et prospéré dans le passé, quoique de différentes manières. Autrefois résistant bon nombre d'aspects des vies privées de nos ancêtres, il s'est fortifié dans son dernier bastion, coopérant avec le dernier ennemi de l'humanité, le dieu argent. Nous vivons effectivement un temps où les hiérarchies redoublent de malignité pour piétiner le travail honnête d'autrui et de nombreux travailleurs honnêtes sont les victimes de stratagèmes visant soit à les pressuriser pour obtenir davantage de travail d'eux, soit les faire s'effondrer pour laisser la place à quelqu'un d'autre de soi-disant plus compétent, ou pour se débarrasser d'un individu au travail désormais considéré comme obsolète. L'obsolescence de la pensée ou du rythme causant parfois des routines d'automutilation. Cela est aussi la cause de bien d'autres maux cités précédemment, comme le burn-out, que j'appellerai ici le saïorisme. Ironiquement, la meilleure défense que vous avez contre ces facteurs de stress menant au suicide provenant d'autrui est de faire appel à autrui. Toute routine abusive est clairement adaptée à votre personnalité et votre capacité d'action estimée par l'agresseur, qui estime avoir le contrôle sur vous, et il s'attend à ce que vous luttiez. Identifier que vous êtes une victime est important, mais pour ne pas que votre lutte soit vaine, il faudrait alors débusquer des alliés, même au risque de faire des choses sortant de l'ordinaire, comme appeler un centre d'écoute, ou prendre rendez-vous avec un psychiatre, ou avec d'autres sentinelles, ou même amasser des preuves pour les livrer à la police. La prochaine fois, peut-être que nous aurons retrouvé l'œuvre de Roger et donné suite à cette rubrique. Merci de votre écoute.
Je suis à la bourre.
Mais j'étais encore dans l'appart.
Pas assez de place dans un jingle micro-sillon.
De l'individuel au collectif, par Philippe Shark. Bienvenue à l'épisode numéro 3, les inégalités. Le fossé entre les privilégiés et les plus démunis se creuse et cela devient inacceptable. Beaucoup de sans domicile fixe font la manche et lorsque je les vois, je me sens gêné. Nous vivons l'époque du progrès, mais la science ne fait pas le tout. À l'heure de la très haute technologie, au moment présent, la société régresse dans le social. La situation devient impossible et les mouvements sociaux se multiplient et les transports toulousains sont impactés. De ce fait, les usagers sont exténués et l'atmosphère devient impossible. Du temps de ma maman, en 1995, j'ai appris qu'il est plus facile d'être pauvre que d'être riche. Et en France, le peuple a été gâté et s'est senti gêné par la baisse du pouvoir d'achat. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de pauvreté en général. Les gouvernements sont différents, mais leurs politiques sont sensiblement les mêmes. La privatisation des services publics sont à l'ordre du jour, mais n'arrange pas la situation car cela fait augmenter les inégalités. Au moment présent, il y a un mouvement social dont on ne voit pas la fin. Concernant les réformes des retraites, les gilets jaunes, c'est un mouvement en pointillés qui dure. Emmanuel Macron ne veut rien savoir. Il va falloir manifester rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris et devant le porche du Palais d'Élysée. Une manifestation interdite, c'est par le nombre de militants que l'on pourrait renverser le gouvernement et faut-il savoir jusqu'où cela pourrait aller.
Merci beaucoup Philippe pour ce texte très engagé, on peut le dire, et vraiment beaucoup dans l'actualité. Alors moi j'avais une première question, qu'est-ce que vous pensez de la suite du mouvement? Comment ça va se passer, vous avez l'impression, dans les jours, les mois qui viennent?
J'ai l'impression que ça serait plutôt parler à un mur, manifester dans les rues de Toulouse, un comité réduit de nombre de militants, de manifestations.
Qu'il n'y a pas assez de manifestants, c'est ça?
J'ai l'impression qu'il n'en a pas assez.
D'accord.
Et j'ai l'impression que c'est trop dispersé dans la France entière. C'est pas du tout comme si ça devrait être regroupé sur la capitale, aux abords de président.
D'accord. À votre avis, il faudrait qu'il y ait tous les manifestants qui soient à Paris réunis, c'est ça?
Oui, j'ai pensé à ça.
D'accord, oui. Et moi, je me demandais, est-ce que vous voyez, du coup, par rapport à ce nombre de personnes, et au niveau des stratégies, est-ce qu'il y a une différence pour vous entre les manifestations syndicales contre la réforme des retraites et ceux des Gilets jaunes? Ou vous voyez pas de différence?
Je ne vois pas beaucoup de différence. Tous les samedis, ça recommence, et tous les samedis, les bus de l'agglomération toulousaine sont déviés du centre-ville. Mmh.
Et ça, qu'est-ce que vous en pensez alors de ces déviations des bus en général?
Que c'était normal pendant une grande période, et à un moment donné, quand ça va vraiment loin, on en a plus cassé.
D'accord, les usagers des bus en ont plus cassé.
Les conducteurs de bus sont exténués du fait de devoir faire comme ça.
Et vous pensez que ce serait aux manifestants d'arrêter ou à Macron d'arrêter sa politique, ou ce serait aux manifestants d'arrêter de manifester?
À un moment donné, ça serait aux manifestants de s'arrêter.
D'accord.
Bon gré, mal gré. Ils ont persévéré, mais la persévérance n'est pas sans limite, à un moment donné.
D'accord. Mais du coup, malheureusement, ça donnerait raison à la politique d'Emmanuel Macron.
Ça ne changerait pas grand-chose de persister, de persévérer par cette voie, de cette manière. D'accord. De renouveler les manifestants des Gilets jaunes tous les samedis. Dans les rues de la Ville Rose.
Donc encore une fois, il faudrait plutôt une grosse manifestation à Paris qui perdurera pas les bus à Toulouse.
Oui, il y en a eu des grosses manifestations sur Paris. Vois comment ça s'est soldé à la fin de l'année 2018. Il y a même eu des soulèvements, des émeutes. Mmh. Et la police était débordée même. Mmh. Il y avait les casseurs, c'était pas forcément les manifestants militants, pacifiques. C'était surtout les casseurs qui profitaient.
Et alors, est-ce que vous pensez que les manifestants, ils essayent de lutter pour qu'il y ait moins d'inégalités et que Macron, il fait une politique où il y a plus d'inégalités, pour revenir au titre de votre chronique?
S'il ne veut rien entendre, ça ne dépend pas de nous. On a raison de faire comme il souhaite. Quand on est à la tête d'un État, quand on est président de la République, à un moment donné, il faut faire des concessions aussi.
Ouais.
Parce que le président de la République, c'est pas du tout comme le dictateur, un chef d'État qui soit totalitaire. Parce que le président de la République doit tenir compte, parce qu'il y a les ministres, le gouvernement, ça, le Sénat, qui décide par l'Assemblée nationale. Quand tu veux promulguer des lois, ou ça passe ou ça ne passe pas. C'est pas obligé que ça passe. Que ça soit appliqué, les lois, de le faire sortir. Quand on parle de réforme de retraite, c'est question de législation, de loi. Le peuple français est contre ça, mais s'il veut insister, on ne peut pas grand-chose là-dedans.
Et à votre avis, est-ce que cette loi, elle va augmenter les inégalités entre les riches et les pauvres? C'était le sujet de votre chronique. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi par rapport aux inégalités?
C'est que ça pourrait, tout simplement. C'est pas sûr à 100%, mais ça pourrait.
D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous verriez pour, si vous le souhaitez, baisser les inégalités? Qu'est-ce que vous pensez qui serait le mieux de faire?
De manifester autrement, simplement. De parler, tout simplement, de militer, des assemblées.
D'accord. Ouais, ben, je pense que c'est une belle conclusion, des chouettes conseils. Et ben, merci beaucoup, Philippe Charc.
Un grand merci à tous et au mois prochain.
Bonjour, nous voici à la boutique Solidarité pour une marche. Il y a eu une conférence de presse juste avant. Et là, je suis avec une personne qui soutient le mouvement, j'ai l'impression. Donc, je vais le laisser se présenter.
En fait, je suis André Nguyen, le coordinateur du pôle errance du Secours catholique, délégation Ariège-Garonne. Pourquoi je suis là? Parce qu'on est partenaires, nous avons la même mission. Autant la boutique Solidarité que le pôle errance précarité de Toulouse, c'est-à-dire l'accueil de jour. Et l'accueil des gens afin de faire le lien et l'accompagnement des personnes qui sont en précarité.
Bon, on va pas pouvoir continuer, c'est dommage.
L'essentiel, j'ai placé.
Mais voilà, merci.
Merci à vous.
Micro-sillon. Anaconda JP Yeman. De London, moitié Gascogne. Ses platines sont en granit, ses diamants sont en silex, celui que l'on pointe de l'index, JP Yeman, reggae man. Telle une lampe à l'ombre du théâtre, d'Armagnac et de Cognac, je n'ai pas le trac. Entre Saint-Cernin et les Minimes, sur la place Arnaud Bernard, je vous amène au pays du reggae.
Si vous avez apprécié cette musique, retrouvez-la sur YouTube, Christophe Capello. Bonne écoute, merci.
Capitaine, quelque chose s'approche du vaisseau.
Yes, je sais.
C'est Micro-Sillon.
Ils sont en train d'émettre de la création sonore.
La création de Florène.
Micro-Sillon, une radio plus ou moins gemme diffusée un peu partout.
Des gemmes. Temps de sortir le laser de minage.
Mais non, c'est un groupe d'entraide mutuelle.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial, voilà, reportage 31.
Vincent, bonjour, donc me voici à l'école des chiens guides de Toulouse, Midi-Pyrénées, maintenant Occitanie, avec un homme à tout faire, polyvalent, qui est depuis quelques temps dans cette association. Donc je vais le laisser se présenter.
Alors je m'appelle Gilles Blache, j'ai 60 ans cette année, ça fait depuis avril 2012 que je suis à l'école des chiens guides. J'ai tous mes amis autour de moi, je suis ravi. Donc mon travail ici consiste à m'occuper de l'entretien de l'école, le petit entretien. Je suis animalier en premier lieu, je suis cuisinier pour l'accueil des déficients visuels, je m'occupe de leur repas, de leur petit déjeuner et je m'occupe du bien-être des chiens le soir en détente après leur travail de chien guide avec leurs éducateurs.
Comment vous est venue cette passion des animaux, parce que vous avez été aussi à la SPA pendant plusieurs années. D'où vient cette passion, cet intérêt, comment vous êtes rentré dedans?
En fait, les animaux, je les aime depuis l'âge de 10 ans. Mon premier animal, ça a été un chat. Et après, quand j'ai fini mes études et que je suis parti de chez mes parents, que j'ai pris ma propre liberté, j'ai tout de suite eu des chiens avec moi toute la journée qui m'entouraient. Et aujourd'hui, j'en ai encore un en plus des chiens de l'école. La passion, elle est venue surtout par rapport à ce que j'ai vu sur les écrans de télévision. La maltraitance animale m'a fait très mal dès mon plus jeune âge. Donc c'est pour ça que j'ai craqué pour les animaux en général, mais surtout les chiens.
Vous me disiez hors interview que à la fin de votre parcours à la SPA, vous avez fait des enquêtes sur la maltraitance animaux.
J'ai fait des enquêtes maltraitance animaux avec photos à l'appui pour porter plainte au niveau de la gendarmerie. Donc je montais des dossiers, j'allais faire des enquêtes, j'allais chez les gens. Et après je faisais une demande de suivi de dossier avec un gendarme à mes côtés pour pouvoir rentrer chez la personne, parce que moi tout seul j'avais pas le droit de rentrer chez la personne où l'animal était maltraité. Bon, souvent c'est un peu difficile les enquêtes parce que c'est souvent des appels anonymes, donc il faut peser le pour et le contre. Et quand on a la chance d'avoir un gendarme qui veut vous accompagner pour rentrer dans l'appartement et voir vraiment ce qui se passe, c'est là que je prenais les photos et que je portais le dossier au bout et que je portais plainte au nom de la SPA. Mais c'était dans les années 80-85, donc c'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui.
Maintenant, ça a évolué. Que pouvez-vous en dire de ce que vous avez entendu peut-être?
Pour moi, encore au niveau des enquêtes, les sanctions sont encore faibles. Il y a très peu d'amendes qui sont versées. Il y a très peu de prisons pour des animaux qu'on fait souffrir et où il n'y a pas lieu d'être. Donc je parle des animaux en général, parce que moi, j'ai fait des enquêtes sur les vaches, sur les chevaux, sur les chiens de combat. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus sévère, mais à mon goût, toujours pas assez. Les gens doivent faire de la prison pour ce qu'ils font subir aux animaux.
Que pouvez-vous dire sur cette association Les Chiens Guides d'Aveugles, différemment ou similairement à la SPA? Qu'est-ce que vous avez trouvé de différent, de mieux peut-être ici que là-bas?
En fait, c'est totalement différent. Parce que là-bas, la SPA, c'est surtout des chiens qui sont abandonnés, qui ont été abandonnés, qu'on a trouvé au bord de la route, attachés à un arbre, surtout pendant les vacances d'été. Il y a des chats, Moi, j'ai travaillé dans une SPA où on avait récupéré des singes. Et un singe maltraité, malheureusement, c'est le singe qui se fait mourir. C'est difficile à récupérer un singe qui a été battu, qui a été maltraité. En général, le singe se fait mourir tout seul. Il refuse de manger, il se laisse mourir. Mais la différence, c'est qu'ici, c'est totalement différent parce que c'est de l'éducation pour des non-voyants, des déficients visuels, des aveugles. À la SPA, on faisait très peu d'éducation. La seule petite éducation qu'on pouvait faire, c'était pour essayer de faciliter l'adoption de l'animal, pour essayer de le sociabiliser avec d'autres chiens et voir comment il se comportait avec les personnes qui voulaient les adopter. Parce que ici, à l'école des chiens guides, c'est une éducation pendant pratiquement plus d'un an et demi. Et donc, c'est une éducation pour des gens qui ont des problèmes de vue ou qui sont aveugles de naissance. Donc, le chien est là pour remplacer les yeux de l'humain. C'est de l'éducation pure et dure. Ça n'a rien à voir.
Mais merci, ça aura été court, mais si vous avez quelque chose à rajouter, peut-être par rapport à la cuisine, parce que vous avez été pendant des années à faire de la cuisine et vous continuez à en faire.
Oui, c'est vrai que je fais la cuisine pour les déficients visuels qui viennent ici à l'école en stage, mais c'est quand même différent de ce que je faisais en tant que cuisinier professionnel. Là, je fais des plats relativement faciles, parce que j'ai un temps très court pour faire le repas, puisque je fais les repas après mon travail d'animalier. Donc en général, j'ai une quarantaine de minutes pour préparer les repas, donc c'est très court.
Le travail animalier, ça consiste en quoi, pour résumer en quelques mots ?
Alors le travail d'animalier, c'est la désinfection et l'entretien des courettes et des chenilles des chiens, là où ils passent leur nuit. Donc c'est la désinfection pour éviter les bactéries, les virus, etc., les maladies. Donc c'est la désinfection des box et des courettes tous les jours. Ensuite, c'est la détente des chiens. Je m'occupe le soir à partir de 19h, une fois que les chiens ont passé leur journée d'éducation avec leur éducateur, le travail au harnais. Donc le soir à 7h, je leur fais faire un peu des jeux pour les détendre après leur journée de travail. Et après, je les rentre en box pour passer la nuit jusqu'au lendemain matin à 8h que les éducateurs arrivent et s'occupent d'eux. Voilà.
Mais merci de votre participation et voilà, au plaisir de se revoir. Un site internet peut-être par rapport au chien guide d'aveugle.
C'est le site internet de l'école. Ouais, c'est le site internet de l'école. Alors je peux pas le... je le connais pas par cœur, mais bon, il faudrait demander à Sylvie ou à Aurélie qui sont responsables de la communication. Mais moi,
j'en ai pas. Un chien guide d'aveugle sur Google Toulouse, voilà. On trouve de suite.
Oui. Chien guide d'aveugle, oui, ça. Okay. On répond. Il y a un site internet. Après, il y a plusieurs Facebook, Instagram. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour avoir des renseignements.
Ça marche.
Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial, voilà, reportage 31.
Vincent, je suis actuellement à l'heure.
Bonjour, je m'appelle Nico B. Voici une musique, une instru que j'ai souvent dans la tête. Voilà. Merci, au revoir.
Quel est votre héros préféré ?
L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le
micro-sillon.
Combat.
Parfois, câliné, c'est pire. Vu que je me sens pas particulièrement câlin, voici l'heure de Néophile Moué. Épisode Zobubu, délabrement de l'image de la femme soumise et dominée. À l'épisode précédent, j'ai dénoncé le rituel initiatique de la déposition du corps de la jeune fille par défloration. Et le pire, c'est que ce système est actuellement huilé. Le désir sexuel est boosté non seulement par la mode, mais dès l'enfance par des images subliminales véhiculées par de nombreux médias hollywoodiens, notamment les dessins animés de Disney. Entre parenthèses, cherchez images subliminales Disney sur Google si vous ne me croyez pas. Les images subliminales restent dans la mémoire jusqu'à ce que l'acquisition de certains savoirs, ces dernières prennent soudain un sens et agissent. Et la « entre guillemets fille éternelle » évolue par la suite dans un univers où il est normal de voir des contenus que je peux aisément qualifier de « entre guillemets masturbatoires » dans la rue. Je parle des publicités pour les produits cosmétiques et la lingerie. Pour une publicité de lingerie masculine, on voit 100 publicités de lingerie féminine. Et cela mène à penser que dénuder, entre parenthèses, et donc dominer une femme, est 100 fois plus facile que dénuder un homme. On voit aussi beaucoup de publicités où la femme prend une pose particulière et érotique, entre parenthèses ou pire, dans les pubs télé, soupire et parle dans un ton orgasmique, ce qui souligne le caractère pornographique de ces images. La femme devient facile, esclave de ses passions et de ses sensations masturbatoires. Entre parenthèses, elle se touche, mouille en appliquant ses produits sous la douche, dans le bain ou même à sec dans le cas des parfums. Ça donne même des informations aux jeunes hommes sur comment paralyser de plaisir les jeunes femmes, huilant encore plus la machine de domination phallocratique. Et malgré ça, les femmes luttent toujours. Il existe encore des femmes luttant contre ce système. Peu connaissent réellement l'étendue de la domination phallocratique, mais toutes en connaissent l'existence. Et leur insoumission, entre parenthèses, même en pleine soumission, montre à quel point les femmes sont fortes. Les femmes sont, à l'image de la nature et de la déesse mère elle-même, une force incroyable qui, malgré la domination masculine surpuissante incluse dans le système, résiste encore et toujours. La numérisation de la société rend la machine phallocratique parfaite et ébranle les dernières fondations de la puissance de la femme, et son dernier espoir d'être mature et maîtresse de son corps. Mais au même moment, la phallocratie est dans un état de vulnérabilité sans précédent. Car, à l'ère du savoir accessible par le net, du bouche à oreille par messagerie instantanée et de la mémétique, il est facile de glisser les mots et transmettre les savoirs qui permettront à des générations de jeunes filles d'expérimenter avec leur corps et en prendre définitivement le contrôle et de connaître les faiblesses de l'homme pour intérioriser enfin l'égalité et restaurer l'équilibre de la dissymétrie des corps. La phallocratie fonctionne grâce à l'ignorance, et ma philosophie combat l'ignorance dans la recherche éternelle de Dieu. Et dans ma propre lutte féministe, la philosophie Mo éclame haut et fort le glas de la phallocratie, car j'aime aimer des femmes modestement vêtues, réveillées et lucides, en pleine possession de leurs moyens et en pleine capacité de m'empêcher d'abuser d'elles. À bas le rituel initiatif de la déposition du corps de la jeune fille par défloration! Au mois prochain, je continuerai à vous en parler, après l'épisode 14 de Vlad le Barbare.
Oh oh, prends ça, nouvel épisode de Vlad le Barbare. Vlad le Barbare.
Épisode 14, Run with the Wolves. L'équipe a reçu une quête annexe à propos de zombies arrivant régulièrement tous par le même chemin, donc l'équipe retrace le chemin. Faites des jets de vigilance.
Oh zut!
Des loups dans les fourrés! Initiative tout le monde!
Les loups approchent à grande vitesse et ont l'initiative!
Ah! Dégage!
Rayon de givre! On les aura à mesure! Vigueur mineure!
Oh! Faites décapite le loup d'un coup critique! Il lui restait un PV.
Mais pourquoi il a autant de PV?
Ok, il faut pas tuer celui-là. Je vais vous le prochain et...
Rayon de givre.
Oh, Anna.
Anna soigne plutôt en la tête. La tête chimifiée du tout et ne faisant même pas l'envergure de l'humain de l'être géant.
Ah! Anna, je vais lancer un sort qui va me permettre de fondre plus tard.
Un des loups prend tout trip attaque, mais sa cible est en dire qu'il n'a pas de pied et qu'il flotte dans les airs. Il échoue donc lamentablement. Les deux derniers loups, Vlad, attaquent le chronique par l'épée avec ses dents. Le second tente de faire de même avec le bouclier de tout et mais il disparaît dans une explosion de dents.
Tu auras Vlad, esquive en dire.
Ah, c'est pas nous, c'est juste qu'il fait encore un acte, alors on a des dîners, mais
merci Hannah. Blessure mineure.
Les deux soigneurs se mettent ensuite à soigner Outouré, mais ratent lamentablement leur jet de premier secours.
J'en ai marre, Outouré doit vivre. Pourquoi les déesses décident-elles qu'Outouré va mourir? Soin léger. Himawari, octroie-moi le pouvoir de soigner cette pauvre elfette loin de sa terre natale. Je t'en supplie au nom du respect de la vie et de son ex-vice-président Chitose.
L'émission est terminée. Au revoir. On se retrouve.
Rendez-vous le mois prochain.
Oh non.